Monsieur Julien, aujourd'hui vous allez nous raconter ce terrible siège de Saint-Antonin en 1622. Mais comment en est-on arrivé là ?
Eh bien, après l'assassinat de Henri IV en 1610, s'ouvre une nouvelle période de troubles. Dès 1614, à l'instigation du duc de Rohan, les églises protestantes se regroupent en province dans le but de maintenir leur intégrité et leur force pour se dresser, si nécessaire, contre le pouvoir encore bien fragile du jeune roi Louis XIII. Les fortifications sont réparées et renforcées ici comme ailleurs, et la ceinture de notre ville se hérisse de bastions, de cornes, de demi-lunes ou de ravelins. La guerre, devenue inévitable, commence au printemps 1621. Le 22 août 1621, l'armée royale, forte de 20 000 hommes, met le siège devant Montauban, dont la garnison de 4 500 hommes, où se trouvent nombre de soldats de Saint-Antonin, résistera à tous les assauts jusqu'au 10 novembre, où le siège est levé. C'est l'allégresse dans le camp protestant. Mais au printemps de l'année suivante, le gros de l'armée royale, sous les ordres de Louis XIII et de Condé, reparaît en Agenais et en Quercy, s'empare sans coup férir de nombreuses villes, et le 8 juin, après avoir négligé Montauban, assiège Nègrepelisse, qui succombera le 12. Le reste de l'armée, conduit par le duc de Vendôme et le maréchal de Thémines, se présente devant Saint-Antonin et investit la ville le 9 juin 1622. Alors commence le terrible siège dont le récit a été fait par notre compatriote Antoine Aymar, témoin oculaire, dans son journal du siège que voici.
Madame Julien, pour illustrer le récit de ce siège de Saint-Antonin, qu'avez-vous choisi comme musique ?
Aujourd'hui, voici face à face une ville farouchement protestante et un roi de France résolument catholique. N'oublions pas que Louis XIII a consacré la France à la Vierge Marie. Or, c'est au roi que les armes donneront la victoire. J'ai donc choisi, pour accompagner le récit du siège, une messe du XVIIe siècle de Frescobaldi, successivement Kyrie, Alléluia, Ave Maria.
Jeudi 9 juin 1622.
Le 9 juin 1622, la ville de Saint-Antonin en Rouergue a commencé d'être attaquée par les troupes de messieurs de Vendôme, du duc d'Elbeuf et du maréchal de Thémines. La première attaque a été faite à Pechdax, où les troupes se sont logées et ont dressé plusieurs corps de garde, aux escarmouches desquels ont été tués monsieur de la Tour, capitaine, ainsi que le capitaine Lalanne, tous deux étrangers. Le sergent Vonissas a eu le même sort. 3 ou 4 des nôtres ont été blessés. Rosé, prisonnier, a pu s'échapper et a dit que l'ennemi avait perdu 3 ou 4 hommes.
Vendredi 10 juin.
L'ennemi est venu jusqu'aux cornes. Les cornes, ce sont des fortifications avancées. Elles se trouvaient principalement à l'emplacement actuel du café de la brasserie. 11 des siens sont demeurés sur la place ou ont été jetés dans la bonnette. Sur le soir, David Roussignac, dit Touli, a été blessé d'un coup de mousquet.
Thank you.
Samedi 11 juin, jour de Saint-Barnabé.
Une furieuse attaque a été donnée sur les 10 heures avant midi. Les nôtres ont été chassés du colombier de Bougnols et du four de Minère. Le capitaine Marmoine a été blessé à la cuisse au fond de Côte-Droite. La Côte-Droite était le vieux chemin de Saint-Antonin à Lavorette qui prenait en écharpe le calvaire. Et c'est aujourd'hui un chemin impraticable. Ce qui montre bien que les soldats commandés par le capitaine Marmoine de Saint-Antonin défendaient les abords de la porte de la Condamine en dehors de la ville. 3 hommes de l'ennemi ont été tués dans la vigne de Bougnols. Un porteur espagnol demandant monsieur de Vendôme est entré dans la ville. Il a avalé les lettres qu'il portait et ne les a pas encore digérées. Ramat, soldat de Nègrepelisse qu'on croyait avoir été tué lorsque le capitaine Marmoine avait été blessé, est arrivé de nuit près la ville. Il était blessé. On l'a fait entrer pour le faire panser. On dit que Dalot, le receveur, venant de Languedoc à Millars, averti du siège, s'en est retourné pour faire venir monsieur de Rohan au secours. Le fils de Vinagre, arrivé de Nègrepelisse, a dit que le roi a fait pendre 50 des principaux habitants aux fenêtres de leur maison. La Couleuvrine et autres pièces d'artillerie du bastion de la Porte du Pré a tué 80 hommes à l'ennemi ou plus. Voilà donc, nous apprenons par ce récit, que Nègrepelisse a succombé et que 50 habitants ont été pendus.
Lundi 13 juin.
Voici ce que dit ce jour-là dans ses mémoires le maréchal de Bassompierre. Tous ces messieurs vinrent recevoir monsieur le prince de Condé au-dessus de la montagne de laquelle il est aisé de reconnaître Saint-Antonin, car on y voit dedans les rues de la ville. Bassompierre nous apprend que le gros de l'armée royale ayant soumis Nègrepelisse vient d'arriver au camp de Saint-Antonin. Le campement de l'armée fut résolu aussitôt dans la vallée, sur le bord d'un petit cours d'eau nommé la Bonnette qui passe à travers la ville. Messieurs de Thémines et Vendôme avaient déjà commencé quelques tranchées qui venaient contre cette petite rivière dont ils avaient détourné le cours et mis dans son lit quelques gabions, de sorte qu'ils pouvaient par ce moyen aborder une corne avancée que les ennemis avaient jetée sur l'avenue. Vous pouvez observer aussi, mesdames et messieurs, le détournement opéré par les troupes de Louis XIII du cours de la Bonnette. Autrefois, la Bonnette, en amont du pont des Estafets, venait lécher le garage actuel Vidal. Elle faisait une courbe beaucoup plus prononcée. Et pour que l'armée royale pût mieux attaquer la corne de la Brasserie, on avait détourné le cours de la Bonnette. Voici encore ce que nous annonce Bassompierre. Le roi est enfin arrivé lui aussi à Pechdax. Il fit ensuite sommer ceux de la ville qui ne lui répondirent qu'à belle mousquetade. Le roi essuya lui-même le feu des assiégés et un coup de pièce portant balle de plomb de la grosseur d'un œuf passa au-dessus de sa tête. Quant à notre compatriote Aymar, il a noté, lui, ce jour-là, qui est un jour important, en raison de l'arrivée considérable de troupes, l'ennemi a tiré plus de 2000 coups de mousquet et quelques coups de fauconneau. Ils ont blessé au quartier de Marmoine un petit garçon, une femme et un soldat. À 2 heures après-midi, M. de Bourde, de Pénavert, Marais et quelques autres soldats sont montés aux Causses d'Anglars et ont tué 4 soldats de l'ennemi au bout de Combeluzens. Cela veut dire aussi que l'armée ennemie est sur le plateau d'Anglars. La nuit, il y a eu une forte alarme, principalement à notre corps de garde de la Popie. Le régiment de M. de Sessac s'est logé au bout de la côte de Peine. On a pris un cavalier ennemi qui a dit que l'armée était de 30 000 hommes, que le roi s'était emparé de Nègrepelisse et l'avait battu avec 6 canons prise d'assaut et fait pendre 50 hommes. Les mémoires du maréchal de Bassompierre nous apprennent. Le lieu où était logé le roi étant très incommode et sans eau, il résolut d'aller à Caylus de Bonnette qui était à 2 petites lieues de Saint-Antonin. En effet, le roi, depuis son arrivée le 12 juin au soir, logeait à la ferme de pêche d'Ax que nous appelons aujourd'hui le Calvaire. Et on nous dit que c'était un lieu très incommode et sans eau, nous le comprenons très bien, et surtout qu'il faisait très chaud cette année-là. Dans le journal Aymar, nous relevons, pour ce mardi 14 juin, sur les 3 heures après-midi, l'ennemi a placé 7 pièces de canon dans le camp de Pétras, au bout du pré commun. À la même heure, Jean Doumerc, dit l'Escarrier, et autres 2 ont été blessés sur le bastion de la porte du pré. Le premier d'un coup de mousquet, le deuxième de 2 coups de fauconneau. Les canons ennemis ayant commencé à tirer, le premier coup a enlevé la main de Jacques Aymar. D'autres sont tombés sur les maisons de Lagarde, de Mademoiselle Delbos, de Pénavert et autres. Il y a à présent 8 pièces de canon dans le camp du dit Pétras, 2 couleuvrines par-dessus son pigeonnier et 3 fauconneaux sur le pigeonnier de Bartoulette. On a tiré 26 coups de canon depuis 3 heures après-midi. Philippi et Ouradou ont abandonné la Popie et la barricade du fond du pont après les avoir fait détruire et ruiner. Ils sont rentrés sur le pont, envoyant sentinelles au dehors. Le moulin du gravier a été ruiné. La Couleuvrine a rompu l'attelage d'un des canons qui sont pointés au bout du pré commun. Bernard de Saint-Just fut tué à la barricade du gravier. Toujours du journal Aymar. Il y eut prêche sans cloche. Le sergent Marc de Conti fut blessé d'un coup de mousquet à la cuisse sur le bastion. Le capitaine Ouradou au bras gauche. L'ennemi a perdu 6 ou 7 hommes. Il a mis ses barricades dans le pré, près du jardin de Miquelot. Nous voyons après ce texte que l'armée royale qui se tenait au fond du pré commun arrive maintenant petit à petit près des remparts de la ville.
Jeudi 16 juin.
Dans l'espace de 6 heures, les ennemis ont tiré 250 coups de canon qui n'ont fait aucune brèche. Le pont-levis de la porte du pré a été brisé. Un boulet, creva le ventre de Samuel Lacombe. Un autre emporta la tête de Guiral. Cavaillé-Barre mourut la nuit dernière. Un soldat de Verfeil perdit la main et fut blessé à la cuisse. Deux autres habitants de la ville furent tués. Sur les 4 heures après-midi, notre canonnier ayant tiré la Couleuvrine sur Pêche d'Ax, l'ennemi répondit par un coup de canon qui passa dans le rouage de la Couleuvrine sans l'avoir offensé. Ce coup emporta 4 doigts de la main gauche à Jean Fourneil et blessa 3 enfants.
Vendredi 17 juin.
Quelques régiments sont venus au bout de la côte de Peine. Une partie des soldats sont descendus jusqu'à la Popie. 2 ou 3 ont été tués par les habitants. On a tiré 170 coups de canon. Un fils de Ravenel a été blessé d'un coup de mousquet au cou. Cambe, fort vieux, à la jambe. La brèche est ouverte sur le soir. Jacob Rosé et Pierre Bayle ont été tués pendant la nuit.
Samedi 18 juin.
Le matin, le capitaine de Lourdes a été blessé au bras sur le grand bastion. L'ennemi a comblé le canal de Bonnette avec des fascines. Il s'agit du canal des Clostres. Il a tiré 80 coups de canon aux cornes. Sur les 2 heures après-midi, les assiégeants sont montés à l'assaut pour s'emparer des cornes. Mais ils ont été repoussés. Ils ont cependant eu, tués ou blessés, plus de 100 hommes. Et quelques-uns des nôtres ont été blessés, entre autres M. Pinel à l'épaule, M. de Saint-Sébastien et Paul Vialard. La chambrière de Bertrand en a tué 2 de l'ennemi avec une dalle, c'est-à-dire avec une faux. Elle a été blessée avec Françoise de Pénaveyre, la fille de Maître Delors, la chambrière du Petit de Juste, Benoît Tailleur et Maffre Roubert ont été tués. Nous voyons par ce récit que les femmes participaient activement à la défense en cette journée du 18 juin où les troupes royales essaient de prendre d'assaut la corne dont j'ai dit qu'elle se trouvait à l'emplacement actuel de la brasserie.
Dimanche 19 juin.
La tête de la fille de Plagavin a été emportée d'un coup de canon avant le jour et Cadinelle, femme de Mathieu Aliès, a été tuée en travaillant à la manœuvre. Sur les 10 heures du matin, Barthélemy Combaille a été tué d'un coup de mousquet au flanc en même temps qu'il tirait le sien à l'ennemi. Il est arrivé un porteur de Montauban qui a dit que Sainte-Foy avait été repris et que l'on avait tué 1200 hommes de la garnison du roi. Il a dit aussi que le secours des Montalbanais serait déjà arrivé en cette ville si l'on n'avait fait savoir à Montauban que Saint-Antonin n'en avait pas besoin parce qu'il y a trop de gens et peu de vivres. On a donné le second assaut aux cornes. L'ennemi a été vaillamment repoussé, malgré une cruelle batterie qui ne cessa de tirer pour intimider les nôtres et les accabler. L'ennemi a eu plus de 40 hommes tués. De notre côté, M. Segui de Caussade, Sarme Jeanne, capitaine, blessé au bras, on a tiré 140 coups de canon. Le roi s'impatiente, nous dit Bassompierre, de ce que ce siège dure. Il monta à cheval, dit Bassompierre, et alla au camp, où il vit faire une attaque à une corne qui fut violemment soutenue et repoussée par les femmes à coups de hallebarde. Encore les femmes, voyez. Le roi se fâcha du peu d'avancement du siège et du peu d'effet des gens de guerre aux attaques. Journée terrible et décisive. Le troisième assaut a été donné aux cornes. Il a été terrible et dans les deux parties, l'on a perdu beaucoup de monde. Les ennemis, à force de troupes et de coups de canon, ont gagné les cornes et fait brèche aux murailles de la ville près de la maison de Lalose, chanoine. Cette maison se trouvait à peu près à l'emplacement actuel de la maison Régie. Ils ont fait jouer une mine qui les a entièrement rendus maîtres des cornes, mais ils ont perdu un grand nombre d'hommes. Ils nous en ont tué aussi beaucoup, entre autres David Ouradou, capitaine, M. Cousin, le fils du capitaine, M. Benjamin Philippi, David Franck, notaire, M. Luc Tailleur de Bruniquel, Bourrel, apothicaire, Prévarac de Verfeil. Marc Grave a eu la tête emportée d'un coup de canon sur le bastion de la Condamine et Abraham Barrière a eu le même sort. Le même coup de canon m'emporta à moi, Antoine Aymar, la main gauche. Il y eut aussi beaucoup de blessés, entre autres Antoine Bougnol, jeune marchand de la Razette, Weiss de Caussade. Pierre Pénavert fut blessé d'un coup de mousquet au flanc, dimanche, en apportant de la poudre et des balles aux soldats. Il mourut quelques jours après la réduction de la ville. David Dugonnet, sergent d'une compagnie, fut blessé au genou, et Jacob Aymar, son beau-frère, fut blessé aussi au coude, et moururent tous deux quelques jours après. Ayant fait profession de foi, et reçu par le père Bernard, capucin, en la religion catholique, apostolique et romaine. Après la terrible journée du 20 juin qui a vu l'ennemi faire une brèche dans les murailles et s'emparer des cornes, les responsables militaires de la ville demandent une trêve. Et Antoine Aymar nous raconte. La trêve ayant été faite pour une heure seulement a été tout de suite rompue. Causse, apothicaire, a été spolié de son écharpe, épée et armes par les ennemis qui prirent Combes, Dufour adjoint, Raigade, David, Villeneuve et Ventolon, et après les avoir fait attacher par les bourreaux, leur ont donné la vie.
Mercredi 22 juin.
Nouvel entretien. Antoine Aymar nous dit « On a fait une trêve de quelques heures. Monsieur de Sessac, monsieur de la Guépie, avec quelques autres grands seigneurs et capitaines des gardes du roi, ont été dans la loge où le consul Martin, le capitaine Poux, le sergent-major Lacroix sont allés les trouver. Après l'entrevue, ils ont eu la permission de prendre la fille de Villeneuve qui avait été tuée au combat du lundi 20. Le canon a beaucoup tiré et a battu la tour de la porte du pré. L'ennemi a fait jouer 3 mines sur le soir qui ne lui ont guère servi. On attend la résolution du roi qui est à Caylus et Bassompierre précise ce jour-là tout simplement, mais il s'avance un peu. Le mercredi 22, la ville de Saint-Antonin se rendit à discrétion.
Jeudi 23 juin, veille de Saint-Jean-Baptiste.
Il y eut trêve jusqu'à midi pour parlementer. Et après le parlement, le consul a rapporté dans le temple, où il a fait assembler tous les capitaines et 3 des principaux de leur compagnie, que le roi ne peut accorder aucune composition à la petite ville de Saint-Antonin, puisqu'elle a voulu soutenir 15 jours le camp du roi. Toutefois, qu'il leur accorde qu'ils auront la vie sauve et l'honneur de leur femme, la plaisante expression, que les soldats étrangers sortiront avec un bâton blanc à la main, les capitaines avec leurs épées, et que le pillage serait arrêté moyennant une somme de 300 000 francs. Monsieur de Vendôme et monsieur le maréchal de Thémines entreront le même soir dans la ville.
Vendredi 24 juin.
C'est la fin. Il fut accordé dans la maison de Monsieur Lebrun, apothicaire, que les habitants seraient quittes du pillage, du violement de leurs femmes et du brûlement de leur ville, moyennant la somme de 100 000 francs. On a obtenu quand même une forte réduction, vous voyez. Somme pour laquelle s'obligeront 45 bourgeois ou habitants de la ville par contrat retenu par un notaire des troupes de Monsieur de Vendôme, payable à la fin de l'année et jusqu'au réel paiement. 7 des 45 demeureront effectivement prisonniers, savoir Lalose, dit Bracourt, Besse, Philippi, Bougnol, Dardenne, De Just et Canitro. Le même jour, on pendit le sergent-major Monsieur de Lourdes, Sarmejeanne, Bayarguet, Josué Pénavert, Pierre Doumerc, Garrigue, Lagarde, procureur du roi, un nommé porte, qui était venu se remettre en cette ville, étant catholique de Marnave, un nommé Coutis et un bridier de cette ville, nommé Porte. Bassompierre ne dit pour ce jour-là, le vendredi 24, le roi partit de Caylus pour venir loger à Castelnau, mais comme la traite était longue, il fut contraint pour attendre les troupes demeurées derrière d'y séjourner.
samedi 25 juin.
On affiche le taux des vivres, tant du pain que chair, que poisson, vin, avoine, foin, dans tous les carrefours de la ville. Pour compléter les 12 qui devaient être pendus, Pierre Amiel de Verfeil a été pendu aujourd'hui. Le temple de ceux de la religion prétendue réformée fut métamorphosé en église romaine, le roi l'ayant donné aux messieurs du chapitre, et le lendemain, on y dit la sainte messe. Monsieur Tolosani, c'était le pasteur, a prêché dans la salle de Monsieur de Roire. Les protestants se sont réunis dans une maison particulière, la maison de Monsieur de Roire, gendre d'un ancien gouverneur militaire de Saint-Antonin, Monsieur de Blanchefort. C'est la maison actuelle Léris. Il y avait, à cet office, nous dit Antoine Aymar, seulement 40 hommes. Et autant de femmes ou environ. Monsieur de Biron était à la porte pour garder qu'il ne fût point fait d'insolence de la part des soldats.
Lundi 27 juin.
Le journal est marre et bien laconique. Le conseil a été tenu à la maison de Brun. C'est la stupeur dans la ville.
Mardi 28 juin.
A été signée la délibération du conseil tenu à la maison de Brun, par laquelle Monsieur Canitro, procureur et député pour aller à Toulouse, emprunter les 100 000 francs que nous sommes obligés de donner pour obtenir rabais du roi. Il y eut prêche dans la maison du dissieur de Roire. Le 26 juin 1622, moi, Antoine Aymar, ai fait profession de foi en l'église catholique, apostolique et romaine à Saint-Antonin, et j'ai été reçu par le père Bernard Capucin. Ainsi mourut, à la Saint-Jean d'été 1622, la vaillante République protestante de Saint-Antonin. Alors commence l'irrémédiable décadence de notre ville. Si, comme moi, vous compatissez au sort de ces hommes et de ces femmes, allez voir les vestiges qui rappellent ce siège funeste. Allez au musée, où se trouve notre seul canon restant de cette date, que nous appelons la Coulevrine improprement. Et se trouvent là aussi, auprès de ce petit canon, 3 boulets de l'armée royale, retrouvés par M. Vessière, le père de Mme Schreiber de la brasserie, quand il creusa une citerne pour sa brasserie. Allez à Caylus, où vous pourrez lire, dans l'église, la dalle gravée mentionnant le séjour de Louis XIII, où vous pourrez lire « Louis XIII, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, entra dans la présente ville de Caylus le 14 du mois de juin, allant poser le siège de Saint-Antonin, ville rebelle à sa majesté, et sortit après la prise le 24 du 10 mois 1622. Enfin, pour ceux qui aiment les promenades, montez le sentier du calvaire et avant d'aborder la clôture de fil de fer à gauche, suivez cette clôture en remontant dans la pente, franchissez un peu plus haut la clôture et peut-être vous arriverez à découvrir la petite maison ruinée de deux pièces superposées avec son petit four, ruiné lui aussi, où se tint pendant tout le siège de Saint-Antonin en 1622 l'état-major royal, et c'est de là que Bassompierre dit « On voyait au-dedans des rues de la ville ».